R22, tout monde.
Tout monde.
Antenne, radio, bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, création, politique.
Alors, je vais introduire le prochain panel, au cours duquel il sera question d'hybridité et de la rencontre entre la poésie et l'édition. La première communication est celle d'Éléonore Berger, qui ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, mais qui nous a envoyé la vidéo de sa communication. Et je vais l'introduire brièvement avant de diffuser sa communication. Éléonore Berger est actuellement doctorante à l'UPEC. Elle est enseignante agrégée dans le second degré au Havre et elle travaille en thèse sur les rapports entre genre, insuccès et histoire de l'édition en étudiant les trajectoires d'autrices publiées chez Gallimard, Hélène Bessette en premier lieu. Et donc des autrices qui ont été publiées chez Gallimard des années 50 aux années 70. Je vais donc partager sa communication.
Tous et à toutes. Donc, je suis vraiment désolée de ne pouvoir être là aujourd'hui. Je vous parle depuis le passé, puisque donc, c'est préenregistré. Mais j'ai quand même essayé de me mettre sur Zoom pour que ça ressemble à ce que vous allez vivre en direct et j'espère pouvoir rattraper tout ça. Mais je suis sûre que tout est absolument passionnant. Et puis donc, je remercie de me laisser la parole aujourd'hui, enfin, la semaine dernière. Et je vais vous parler moi aujourd'hui d'une, pour multiplier les provocations, d'une autrice qui n'est ni femme poète, ni poétesse, mais bien une romancière, donc, avant tout, qui s'appelle Hélène Bessette, dont j'avais déjà parlé dans un colloque des jaseuses, que vous y aviez assisté. Et donc, je vais vous parler de son gang du roman poétique. J'espère que tout ça vous plaît bien. C'est une romancière qui a pour particularité d'être toujours présentée par le biais de l'insuccès qu'elle a rencontré et par le biais de l'oubli qu'elle a subi ensuite. Donc elle a publié 13 romans chez Gallimard, elle a connu un petit succès et puis ensuite elle est totalement tombée dans l'oubli. Et ce qui est assez paradoxal et intéressant, c'est qu'elle est constamment décrite par rapport à cet oubli donc qu'elle a connu, cet insuccès qu'elle a connu. Depuis quelques années, elle connaît un retour en grâce. Un retour en grâce qu'elle avait prédit, qu'elle avait martelé. Donc, pour moi, il ne s'agira pas de revenir sur les raisons, sur les causes de cet insuccès ou de cet oubli, ni sur l'autobiographie de ce personnage très complexe. Je vous renvoie pour ça à l'excellente présentation qui a été faite il y a très peu de temps, il y a environ un mois, à la BNF par Laure Limongi, dans le cadre du cycle de conférences sur les autrices oubliées, avec la très belle lecture d'analyse de Courtin. C'est toujours disponible sur YouTube, donc je vous recommande vivement d'aller écouter cette très belle conférence. Donc Hélène Bessette, elle décrit ses romans comme poétiquement autobiographiques. Et dans sa pratique romanesque, la poésie a une importance telle qu'il est toujours difficile de faire, d'assigner un genre à ce qu'elle écrit. Elle écrit à une époque où la politique est cruciale, où les existentialistes, les écrivains engagés se déchirent sur les questions de gauche. Hélène Bessette, elle est de ceux qui refusent la politique au profit de la poésie. Donc elle va souhaiter un art total. Et d'ailleurs, l'un de ses fervents admirateurs et critiques, Alain Bosquet, lui connu pour avoir des positions très loin de la gauche, qui l'a énormément soutenu, l'accompagne dans cette volonté de rechercher un art qui serait pas tout à fait loin des questions politiques, mais du moins loin de l'engagement politique concret. Voilà. Elle n'appartient à aucun groupe. Comme le dit Claudine Hinault, c'est une écrivaine qui n'appartient pas. Donc souvent les extraits que je vais vous montrer ensuite sont des extraits de ce critique Alain Bosquet. Donc pour ce qui est du roman poétique, il dit... Hélène Bessette s'obstine à écrire ses romans sous forme de poèmes. Effectivement, sa poésie n'existe pas sans la structure particulière de ses romans. On trouve à l'IMEC, donc dans les archives, quelques poésies à proprement parler, sous forme de vers, mais elles témoignent d'une forme d'inadéquation, une maladresse peut-être, en tout cas qui tranche avec l'agilité poétique dont elle fait preuve quand elle écrit sous couvert de romans. En fait, elle méprise vraiment le genre quand il est unique, quand il n'est pas hybride. Dans ce qu'elle appelle la littérature lecture, une littérature faite pour être lue, et qui serait différente de la littérature. Elle a écrit pour ça Les Petites Lecottes en 1955. Mais c'est son seul essai de littérature-lecture et tout le reste de sa production est marqué vraiment par le sceau de l'hybride. Donc, elle a une prose qui est faite d'associations d'idées, de déductions, de conversations. Elle veut absolument en finir avec le roman fleuve à l'imparfait et au papier simple pour faire place à une phrase qui, sans être absolument versifiée, est articulée sur un rythme ou au contraire, complètement désarticulée. Donc quelque chose qui se rapproche de la prose poétique, mais qui est beaucoup plus long qu'une prose poétique. L'une des particularités donc d'Hélène Bessette, c'est non seulement qu'elle a publié ses 13 romans chez Gallimard dans les années 50-70, qui est très rare, mais également qu'elle a développé une théorie littéraire, ce qui l'est encore plus. On connaît bien le nouveau roman, L'ère du soupçon de Nathalie Sarraute. On connaît moins l'idée du roman poétique d'Hélène Bessette. Et c'est tout à fait dommage. Donc je vais me pencher un petit peu plus sur ça. Et puis je vais évoquer quelques réflexions sur l'impossibilité pour elle d'entrer dans la case de poétesse maudite. Et puis parler un petit peu d'un cas hybride parmi les hybrides, un roman qui est à paraître. Donc dans le résumé, un manifeste qu'elle a écrit, et dans lequel elle explique sa conception du roman poétique, et dans lequel elle signe la construction de ce qu'elle appelle le gang du roman poétique. Donc un rassemblement de personnes qui vont défendre cette théorie littéraire du roman poétique. Bon, elles étaient très peu, ces personnes, mais elles existaient tout de même. À noter qu'aux éditions Othello va paraître le 14 mai, le résumé des résumés, ce fameux poème de la mise au point que vous voyez là, et l'entretien qu'elle a eu pendant 2 heures avec Jean Paget en 67, aujourd'hui Hélène Bessette. Donc, ça va être très intéressant à lire bientôt. Donc dans ce résumé, elle répète à plusieurs reprises que la France a connu 3 guerres en 75 ans, que ce n'est pas anodin, que pour beaucoup d'auteurs, d'autrices, ça signifie se tourner vers une écriture engagée. Pour elle, c'est tout l'inverse, c'est rechercher une pureté dans l'écriture. Elle dit « La réponse que j'apporte dans le différend qui s'élève au sujet de la culture est personnelle, essayant d'allier le futurisme au conservatisme. » Donc un mélange pour le moins détonnant. Julien Doucinon, son biographe, dans le numéro du Matricule des Anges qui est sorti il y a peu de temps, qui était consacré à LMB7, dit « Le but étant de trouver un langage poétique qui est forcément celui des temps difficiles, celui de la souffrance et de l'expression quotidienne normale d'un temps de guerre. Une phrase qui doit être lancinante et douloureuse, voisine du jazz, qui retient l'attention, cruelle peut-être. » Nathalie Quintane, qui partage avec Bessette cet arbitraire de l'intrigue, ce goût du montage, de l'assemblage, mais aussi du regard critique, humoristique sur la littérature de son temps, parle elle aussi d'Hélène Bessette sur le site Citeaudit et se demande, Bessette pensait-elle vraiment que l'adjectif poétique pourrait déboutonner le roman des années 50-70 et qu'entendait-elle exactement par poétique? Et donc, qu'est-ce qu'elle dit quand elle dit poétique? Elle résume ce qu'elle fait, une forme âpre, rude, à la hauteur de la violence des temps, les guerres du siècle sont l'un des leitmotivs du texte, une forme qui n'arrange rien et ne se réduit pas à la question de la langue, de ses pouvoirs et de ses prestiges, mais cherche à englober la question sociale, le rapport de la littérature avec la vérité et les circonstances immédiates pour que le non-statut de l'écrivain, de ses conditions de travail et de ce que ça produit concrètement dans le livre qu'il écrit. Donc, c'est ce paradoxe d'une écriture qui allie une recherche d'art total, une poésie vraiment extrêmement développée, un jeu de sonorité constant, un mélange constant, mais une volonté aussi de montrer ce qu'est la vie du petit peuple, des secrétaires, des institutrices, des bonnes, des femmes de ménage, voilà, autant de personnages féminins qui étaient pour le moins méprisés par la littérature avant elle. C'est ainsi qu'on se retrouve face à des romans comme 20 minutes de silence, avec des parties. La structure du roman est présentée sous forme de poème. Ça s'appelle le poème des données, poème des questions, poème des solutions, qu'on retrouve dans Garance Rose, qu'elle résume comme un poème cruel, poème complet et bien complété de mes déconfitures. Donc, effectivement, comme le dit Alain Bosquet, Hélène Bessette n'a pas la patience d'écrire comme tout le monde. Elle n'a pas la patience et elle va même Elle va même, comment dire, vilipender, se fâcher contre ceux qui n'ont pas, eux, la patience d'écouter cette écriture hybride. Donc, parlant de 20 minutes de silence, elle dit « Et si la première partie de 20 minutes de silence déroute le lecteur des trois mousquetaires, on découvre, je m'adresse au plus fort, en se penchant sur la structure qui non seulement mérite mais justifie l'analyse, qu'il s'agit en fait d'un paysage intérieur, lequel après étude se découpe aisément, donnant à ces pages le tonus dramatique et d'émotion qu'elles expriment. Naturellement, ce n'est pas la description des chutes du Niagara, mais la description d'une idée, d'un sentiment, d'un impalpable, d'un impondérable, en un mot, d'un drame de l'âme dans toute son abstraction. » Donc on a là une recherche qui allie lyrisme et une forme peut-être même de cubisme. Donc ce mélange des genres, cette écriture, elle est aussi inspirée par les poètes. C'est ce que souligne Julien Doucineau toujours dans Le Matricule des Anges, il dit « C'est grâce aux poètes qu'elle trouve le moyen d'inventer un nouveau langage et le travail de Pound, Ezra Pound, sur la prose audiovisuelle, lui permet de donner à voir et à entendre autrement. » Donc pour elle, il y a vraiment cette idée de poésie, de roman poème qui éclate dans l'air, qui doit être entendu aussi comme une musique et qui doit s'inspirer de l'architecture, de la musique, de tous les arts. Donc elle a vraiment une recherche globale. Cependant, donc, elle se heurte à une critique qui refuse cette écriture-là. Claude Mauriac, par exemple, sur la forme incantatoire de ses récits, dit qu'elle est souvent agaçante, parfois fascinante, mais presque toujours poétique. Je pense qu'il est intéressant de noter que le gang du roman poétique aujourd'hui existe toujours. Une époque, la nôtre, qui est vraiment une époque de la remise en question des genres, de tous les genres, dans ce qu'ils ont de contraignant. Et une chose qui me fascine, c'est le fait qu'elle appelait toujours à cette hybridation et que cette hybridation se crée en 2020 avec le fait que son œuvre est reprise par des artistes toutes catégories. Il suffit de regarder les membres actuels du GRP. On trouve performeuse, comédienne, autrice, comédien, musicien, critique, professeur. Et donc, pour faire entendre sa poésie et son écriture aujourd'hui, on ne se refuse rien, quitte à briser les codes, par exemple, lors de colloques peu conventionnels, celui de Cerisy, où la lecture et la performance, les mots projetés, ont eu une place vraiment primordiale. Donc, je dirais que son écriture hybride incite à la création d'un nouvel hybride. Ce colloque a été organisé notamment par Claudine Huneau, Cédric Julion et Julien Doucineau, je vais raconter cette anecdote. Claudine Huneau me racontait que elle et Cédric Julien sont allés au Mans. Ils ont visité la tombe d'Hélène Bessette et que au cimetière, à côté de l'urne, il y avait un petit papier qui disait « Cette concession est arrivée à échéance 8 jours avant ». Donc, ils ont trouvé ironique le fait que même au cimetière, elle n'avait pas sa place quelque part. Et donc, la recréation du GRP, donc du roman poétique aujourd'hui. C'était une association qui a été créée à l'origine pour prendre en charge la concession de sa sépulture quand ça serait nécessaire. Ouais, je trouve très belle cette idée et toutes les formes d'ironie tragique qui l'accompagnent. Et donc, je pense que le meilleur moyen de vous faire découvrir son écriture, c'est de vous mettre un extrait justement de Grande Ballade, la performance qu'ont créé Claudine Huneau et Cédric Julion. Donc, on va en écouter un extrait.
Écrire dans la rupture résolue avec le rapide, le bâclé, le facile, les solutions faciles, le grosso modo, le grosso ficelle. Les solutions cousues de fil blanc. Écrire à l'encre légère, à l'encre fragile des incertitudes, à l'encre lente.
Voilà. Donc, cette Hélène Bessette, écrivain maudit ou malarmé hystérique, c'est deux qualifications qu'elle a subies souvent. Écrivain maudit, c'est Raymond Queneau qui écrit à Malraux pour lui dire qu'il faut prendre en charge cet écrivain maudit qui est Hélène Bessel. Et Mallarmé hystérique, c'est Alain Bosquet qui dit dans Garance Rose, elle devient un Mallarmé hystérique. Dans son essai On ne vit que deux fois, qui est paru à titre posthume il y a quelques années, grâce aux éditions Othello, elle dit qu'elle a, pour le roman, une inspiration de petit poète, effectivement, et ses nombreuses réflexions, tantôt acerbes, humoristiques, souvent les deux, je trouve que ça nous conduit à une réflexion sur la condition des femmes qui écrivent dans les années 50-70, surtout celles qui écrivent et qui n'ont pas d'argent, parce que cette grande catégorie du poète maudit, elle est possible dans la mesure où on a quelque chose derrière pour nous soutenir, ce qui n'est pas du tout le cas d'Hélène Bessette. Elle est souvent raillée par la critique, les remarques misogynes ne manquent pas, surtout quand une femme s'éprend de poésie. Elle préfère un terme qui la situe résolument dans ce roman des marges, qui est décrit par Florence de Challonge dans le tome Femmes et littérature. Elle dit, elle est vraiment dans cette idée de marge, elle dit « Je ne pense pas que Raymond Queneau s'intéresse à moi, et je crois même que mes projets d'émigration et de gangstérisme poétique ne cadre pas avec les siens. » Moi, j'aime beaucoup cette idée de gangstérisme poétique, de marge, résolue. Elle dit « J'insiste, comme une mendiante, dans une lettre à Alain Bosquet, car je le suis. Si je me suis présentée chez vous à 10h du matin, ce n'est pas par fantaisie poétique, c'est que ma situation actuelle est tout à fait anormale et impossible. » Et en effet, elle n'a pas la possibilité de vivre cette vie de bohème de l'écrivaine maudite, de la poétesse maudite, et elle se retrouve petit à petit dans une situation de plus en plus précaire, qui fait que son choix assumé de rester dans une forme poétique la coupe de tout réseau et alimente cette impossibilité d'accéder au succès. Et en effet, on voit que les femmes ne peuvent pas se payer le luxe de la poésie. On pense par exemple à Violette Leduc, qui est une écriture très particulière, une écriture qui ne va pas vendre des milliers d'exemplaires, mais elle est soutenue par Simone de Beauvoir. De la même manière, on pense à Jean Genet, qui a cette écriture aussi très poétique, romanesque poétique. Et pourtant, on le lit, parce qu'il est soutenu par Jean-Paul Sartre. Mais Hélène Bessette, elle n'est pas soutenue peut-être par les bonnes personnes. En tout cas, elle n'a pas ce petit livre qui a été écrit sur elle, et elle est la seule à tenter de soutenir donc cette écriture résolument hybride. Et ce style est constamment vilipendé. Alain Bosquet écrit « Dans 20 minutes de silence, Hélène Bessette essaie de renouveler son genre, ce caprice, cet entêtement qui sont bien à elle. » Voilà, son roman poétique est caractérisé de caprice et d'entêtement. Là où tout était désarmante gentillesse, elle ajoute des épices qui lui conviennent moins. Imaginez une jeune fille employant les armes de Jarry et Dionesco. Allons, c'est tout de même piquant, ce style à rebousse-poil pour suffragette cubiste. Donc là, on est tout à fait dans l'atmosphère misogyne de la critique littéraire de l'époque. Pourtant, ce même critique dit aussi rarement mélange des genres a démontré de manière plus convaincante, mais sans jamais rien démontrer, que le concept même du genre est mensonger. Et c'est vraiment ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que je voulais vous parler d'une autre œuvre, donc, qui est encore plus hybride, je trouve, qui s'appelle « Élégie pour une jeune fille en noir », qu'on trouve aux archives de Delimay, qui est un tapuscrit manuscrit, qui va paraître prochainement aux éditions Nous, donc on pourra tous le lire. C'est un texte très beau, dont le titre semble vraiment indiquer qu'on tend vers la poésie pure, mais pourtant dans lequel on retrouve encore ces marqueurs du roman poétique précédemment exposé, donc du roman vraiment du romanesque. Mais il est un peu plus vers la poésie. Ici, on discerne encore plus difficilement la différence entre ce qu'elle appelle poème et ce qu'elle appelle roman. Elle s'adresse à quelqu'un, donc elle s'adresse à une jeune fille qui est morte. On a un véritable ton d'abord élégiaque, puis qui tire vers le lyrique, et on trouve une sorte de versant poétique de la longue plainte qu'elle déverse dans ses lettres, dans ses essais, dans ses romans, contre cette injustice qui lui est faite quant à son talent et quant à ce qu'elle essaye d'imposer dans le paysage littéraire. Mais ici, le poétique l'emporte. Elle ne sait pas respecter les genres. C'est pour ça que dans cette longue exposition d'une Ophélie perdue, on retrouve des figures poétiques de la fuite du temps, de l'Ophélie. On trouve tout de même des injections de ses expériences malheureuses à Saint-Germain-des-Prés et de l'amertume qui est en quelque sorte sa marque de fabrique. Par exemple, elle avait une salle à manger, deux salles à manger, trois salles à manger, une chambre à coucher, deux chambres à coucher, trois, un fauteuil, deux fauteuils, des armoires pleines, on les lui volait. Aussitôt, elle en avait d'autres, de ces bois vernis par les ans, de ce luxe, de ce calme, de cette beauté, de ce repos du temps dans la pénombre. Les intellectuels haïssaient, vilipendaient, elle, sans diplôme, eux, achetaient une salle à manger, une chambre à coucher, jamais deux, une chambre à coucher, jamais deux, haïssaient son poli par les ans, du certificat d'études. Donc même dans un texte extrêmement poétique, peut-être le plus poétique que j'ai lu jusque-là, on a cette percée de rancœur et elle ne peut s'empêcher de commenter sa propre écriture. Elle écrit « vernis par les ans » et elle sait que les intellectuels vont haïr sa formule « polie par les ans ». Donc elle ne peut s'empêcher d'écrire sous le regard de ceux qui la méprisent. Ce qui est parfaitement intéressant chez elle, c'est que ce mépris devient une poétique. Et devient ce qu'elle va dérouler dans toute son œuvre. Donc je vous invite vraiment à lire, lorsqu'il sortira cette élégie pour une jeune fille en noir, ça sortira en août, et par ailleurs tous les romans d'Hélène Bessette, ces romans qui sont qui l'amènent petit à petit dans la catégorie aussi de poète, poétesse. Elle a de nombreuses raisons d'être tombée dans l'oubli, Hélène Bessette. Elle était pauvre, elle était paranoïaque, elle refusait d'appartenir au groupe du nouveau roman, elle a refusé de s'engager en politique. C'était une femme, elle était divorcée, elle a vraiment de nombreuses raisons. Mais l'une de ces multiples raisons, c'est aussi cette hybridation résolue, cet entêtement qu'elle avait à ne respecter aucun genre et à mêler roman et poésie. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous passez une excellente journée pleine de rebondissements poétiques.
Je vais tout de suite poursuivre avec l'intervention suivante qui se fera donc à deux voix avec donc Marie-Dominique Garnier et Lucie Ives. Je vais d'abord présenter Marie-Dominique Garnier, qui est professeure de littérature, de langue anglaise et d'études de genre à l'Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Outre deux ouvrages en codirection consacrés à l'écriture d'Hélène Fixou, ses travaux récents incluent Alpha Genre, graphique et politique, paru en 2016, et la traduction du texte expérimental de Madeleine Jeans, Hélène Keller ou Arakawa en 2017, et un récent article consacré à Queer Keller dans Studies in Travel Writing, En route Hélène Keller's Travels, qui a paru en 2021. En préparation, un recueil en traduction à partir d'une chambre à soi, La part à part, et un court recueil de Coem, Couronne 19, partiellement en ligne. Et puis, Marie-Dominique Garnier est accompagnée de Lucie Ives, qui est l'autrice de deux romans, Impossible Views of the World, publié par Penguin Press et sélectionné par la rédaction du New York Times Book Review, et Louder Milk, or the Real Poet, or the Origin of the World, publié par Soft Skull Press et également sélectionné par la rédaction du New York Times Book Review. Ces nouvelles sont rassemblées dans le récent Cosmogonie, publié en 2021, et au printemps 2020, Siglio Press a publié « The saddest thing is that I have had to use words, a Madeleine Jeans reader », la première anthologie complète de la poésie et de la prose de la poète-architecte Jeans, anthologie éditée et accompagnée d'une introduction de Ives et éditée par Lucie Ives. Les écrits d'Ives sont parus entre autres dans « Art in America »,« Art Forum »,« The Baffler »,« The Believer »,« Freeze », N plus One et Vogue, entre autres publications donc. Pendant 5 ans, elle a été rédactrice pour le magazine en ligne Triple Canopy. Elle enseigne dans le cadre du programme de maîtrise XI de NYU et elle a reçu en 2018 une bourse de la Andy Warhol Foundation. Je leur laisse la parole pour leur communication.
Merci beaucoup Mathilde, merci à tout le monde pour cette magnifique fête. Je vais avoir besoin sans doute d'un partage d'écran pour un PowerPoint, pour gagner du temps, parce qu'on a calculé qu'on avait 15 minutes chacune et donc on va aller très vite. je ne sais pas si je peux l'afficher.
Oui, absolument. En bas, vous avez une option partager.
D'accord, je peux, j'ai la main, super, ça oui. Marche. Voilà, donc ça donne ça. Et j'essaie de dérouler ça en 15 minutes. Merci de me rappeler à l'ordre si jamais je déborde. Donc, j'essaie de présenter très vite Madeleine Gaines. Pour aller vite, une manière de la présenter, ce serait de dire que c'est quelqu'un qui se débarrasse du verbe être. Elle aurait, par exemple, un vrai nom qui serait Begins, et puis on enlève le bi, et du coup, on obtient Gins, un drôle de nom, un nom d'engin, un nom de machine, engine. Et une fois libéré du verbe être, c'est beaucoup plus pratique puisqu'on peut décider, par exemple, d'entendre autrement les choses, de se débarrasser des choses encombrantes comme ce verbe être, cette ontologie, et en écoutant cette menace ontologique qui pèse sur le beau titre de cette belle conférence poétesse, du coup, on ne se pose plus la question poète S, et on entend simplement autre chose, sans verbe être, un espèce de S pluriel ou pluréel, comme dit Cixous en 74 ou 76, je ne sais plus. Donc, je pars sur la piste du S, sur Gins, avec son drôle de S, qui forme un assemblage poétique, disons, et architectural. Elle est une poéta ou une poétarchie avec Arakawa. Tous les deux ont... Alors, lui est peintre et architecte, elle est poète-architecte, autrice de poèmes en prose ou de prose-poèmes. Des trajectoires étranges traversent ce couple ou ce drôle de couplage machinique, Gins et Arakawa, couple hétéro non blanc, si on peut dire, suspendu entre deux langues, entre le Japon et Long Island, en passant par l'Écosse, donc d'où vient ce nom de Gins. Le studio new-yorkais où ils vivent et travaillent donc à partir des années 60, en tant que coordinologiste, c'est le nom qu'ils se donnent, ils se donnent en traversant, en joignant des disciplines injoignables, par exemple sciences et arts, à partir des années 60, ce studio est traversé par toute une foule d'amis. J'essaye de les présenter comme une meute, un petit peu comme dans la présentation précédente. Il y a beaucoup de pluriel dans ces écritures poétiques. Et donc, dans la foule, il y a des gens connus et inconnus, comme Kate Millett, comme John Cage, John Jaspers, Yoko Ono, qui héberge Arakawa au début, quand il arrive du Japon, en fuyant le Japon, en tant qu'artiste dada, venu rencontrer Marcel Duchamp. Pour aborder donc cette œuvre peu connue et presque pas traduite, récemment rééditée donc par Lucy Ives, qu'on va entendre, il y a deux points d'entrée. D'une part, la poésie en prose très singulière de Madeleine Gaines, qui s'appuie sur un certain nombre de formes de déstabilisation et de bascule syntaxique, par exemple à partir du gérondif en ing, sur lequel je reviendrai rapidement, ou à partir d'autres techniques comme dans Word Rain, qui date de 69, où l'écriture fabrique des parasitages sonores, des collages. On entend Word Rain, pluie de mots, mais on entend aussi Word Drain, un drain, un cloaque, un égout, un receveur, un déversoir à verre. Et donc, l'autre point d'entrée, c'est ce que vous voyez sans doute s'afficher, c'est-à-dire des sites ou des habitations construites au Japon et aux États-Unis. Ça, c'est le parc Gifu, et ça, c'est une des maisons qu'ils ont construites près de Long Island, à Long Island, et encore une fois, le parc. Donc, vous voyez qu'on a envie de tomber, c'est une invitation à tomber, qui fonctionne à la fois dans l'écriture et dans l'architecture, puisque dans les deux cas, il y a une invitation, enfin, disons, un processus de perte d'écriture et de repère, de chute, ça, c'est une des théories d'Arakawa et Gaines, pour booster l'immunité des corps. Les lieux construits par Gaines et Arakawa sont littéralement des lieux à tomber, dans lesquels avancer de façon tactile, les bras devant ou à quatre pattes, qui serait donc en mode reptation, une des meilleures façons de marcher pour Arakawa et Gaines. Dans le texte de 94 que j'ai traduit, dont je vais parler seulement brièvement, Hélène Keller ou Arakawa, de nombreux verbes sèment un principe de lecture réversible. Donc c'est là où on commence à apprendre à tomber par osmose. Je donne un exemple très, très simple. Donc Hélène Keller est une aveugle très peu connue en France, mais bon, aux États-Unis, tout le monde sait qui est Hélène Keller, et elle parle de sa formation. Et en anglais, elle dit my forming. Sauf que my forming, en anglais, je ne sais plus du tout où je suis. Et donc quelque part, il y a un devenir Keller, puisque j'entends à la fois ma formation et ce que je forme, mais c'est la même chose. La figure d'Hélène Keller donc, est une aux États-Unis, bon, c'est pas la peine de la présenter, mais en France peut-être un peu. Elle est aveugle et sourde depuis l'âge de 18 mois. Elle est écrivaine, militante communiste, ayant grandi dans l'Alabama, esclavagiste, amie de W.E.B. Du Bois, et ses textes font partie des programmes de lecture des écoles aux États-Unis, sauf pendant l'ère Trump, où bon nombre de ses textes passent à la trappe. Je pense qu'elle a été remise au programme. Alors, quant à la poésie Ginz, elle requiert elle aussi une lecture avec les doigts, haptique, tactile et idéalement, si ça pouvait se faire, olfactive. Toute l'écriture travaille vers d'autres modes de perception, vers une phénoménologie queer, pour reprendre la formule de Ahmed. Il faut être prêt à sentir l'odeur du papier sur fond de moiteur et de temps pluvieux dans Word Rain, en particulier quand on rencontre des phrases. Donc tout pleut, il y a une espèce d'humidité généralisée dans l'écriture qu'on verra tout à l'heure quand je vous montrerai la couverture du livre, si j'ai le temps. Et une de ces phrases magnifiques qui n'est pas paginée, qui est très courte à citer, « She is raining », « Elle pleut », qui pourrait être une traduction performative du travail d'écriture de poétesse, donc, ou de poète à verse, qui pleut à verse. Le papier et l'encre, nous dit-on dans ce texte, donc Word Rain, ça sent le champignon. Et l'écriture, comme des champignons, cherche à buissonner, à limiter l'extension du moi, du I, du sujet classique, pour l'étendre en tant que moisi. J'essaie de me débrouiller avec la langue française pour faire passer cette membrane poreuse qu'est l'écriture d'Hélène Keller. Alors, je vais essayer peut-être de vous montrer un bout d'écriture. Ça serait peut-être pas mal. Donc ça, c'est, je vais travailler à partir de trois extraits très courts. Celui-ci, qui est le début du livre que j'ai traduit. Donc ça, ce sont les quatre premières lignes, avec cette voix Keller qu'on entend ici, « Sky of an Eye ». Ensuite, le début de Word Rain, et puis en troisièmement, s'il y a le temps, je ne sais pas si je peux couper, un petit extrait de All Men and Sisters de 84, qui est extrait d'un texte au titre étrange, What the President Will Say or Do, ce que fera et dira le président, écrit sous la présidence de Reagan, dont le nom est très vite métamorphosé pour devenir Reagan, tout au début donc, de ce texte. Alors, celui que j'ai choisi, le titre que j'ai choisi quand j'ai appelé cette présentation Chemtext, quand on a choisi ce titre, il s'agissait surtout de parler du devenir osmotique des membranes de séparation typiques dans la pensée dichotomique. Je garde là une espèce de forme de perméabilité, mais il ne s'agit pas de parler de chemsex, qui est le mot sous-jacent, qui implique la consommation de drogue et d'acides désinhibants, encore qu'il s'agit quand même de désinhibition dans cette écriture, et il arrive que l'écriture de Ginz soit une pluie acide. Donc, ce premier passage, je ne sais pas si vous avez le temps de le lire, je vais peut-être rapidement le parcourir, mais il s'agit donc de commencer l'après-midi. The afternoon has much to recommend it, including an all-inclusive atmosphere. Simplement, ce membre de phrase-là met en place une géométrie absolument impossible, puisqu'il s'agit d'inclure quelque chose qui inclut tout. Et donc, on se retrouve dans une géométrie à la Möbius, ou plus exactement en 3D, comme une bouteille de Klein, où tout doit tenir et cette peau doit se retourner pour se comprendre elle-même. On aborde donc une géométrie projective, mais pas du tout possible. Et on entend la voix Keller qui avance avec les mains et qui invite le lecteur, la lectrice, à tâter la phrase « Form rubs its antlers ». La forme se frotte les andouillés comme dans un devenir animal. Et puis peut-être l'entrée principale se fait ici, « Sky of an eye ». Donc dans la phénoménologie de l'aveugle, il n'y a pas de limite entre « je »,« I » et « sky ». C'est grand, il y a beaucoup de place, c'est une phénoménologie tactile assonancée. « Sky of an eye », ça pourrait être aussi une retraduction de poétesse. Alors, « Word Rain », je vous le présente aussi très rapidement, avec cette phrase arrachée au début de la page 1, qui en fait n'est pas une page 1 puisque le livre n'est pas paginé. Word Rain offre aussi cette structure d'inclusion maximale au point que le livre devient sa propre peau, interne, externe, mais bon, je pense que Lucie en reparlera. Il y a une moiteur qui travaille un peu partout dans l'écriture, qui fonctionne aussi comme une géométrie, donc dedans, dehors, puisque certaines pages comportent un pouce, et donc ça pourrait être mon pouce en tant que lectrice qui tient le livre. Bon, petit jeu facile sans doute dans les années 69-70, mais ça peut marcher quand même. Et c'est un récit obscur, donc on est un peu aussi Hélène Keller quand on lit ça, parce qu'on avance dans le noir, mais il y a quand même une vague histoire qui est celle d'une lectrice assise dans une bibliothèque qui lit un texte, et ce texte lui coule à travers corps, Et cette pluie de mots devient l'écriture générée dans l'écriture du livre qu'on tient entre les mains. Donc, il y a un effet de contamination entre intradiégétique, extradiégétique, si on veut parler la langue de Genette et des diégèses. Mais il n'y a pas d'effet de miroir. On essaye d'échapper à tout ce qui est de l'ordre de l'optique. C'est plutôt une humidification, une histoire de peau, de membrane, de moiteur, de peau qui transpire, de chaleur, de pluie, qui contamine tout, y compris l'écriture. Il faut donc avancer à tâtons dans ce livre qui est fait de poèmes, d'équations, de plans d'appartements, de formules chimiques, de pointillés. Et l'auteur elle-même n'arrête pas de jouer sur les mots de guest et de host, de brouiller la frontière entre host et guest. Il y a une auteur ôtée, si on peut traduire, faire un mauvais jeu de mots. L'auteur saute pour faire place à la lectrice ou au lecteur. Et dans un espèce de zoom qui serait devenu fou, où on pourrait échanger les positions host-guest, et essayer aussi de sortir de l'invitation optique permanente pour remplacer les dispositifs de cadrage et de visagéité par des échanges moléculaires. Si ça pouvait exister, un zoom comme ça serait pas mal. Des filaments fongiformes qui passerait d'un écran à un autre et qui permettrait l'olfaction, la transpiration, la bulle, la fermentation, les odeurs, etc. Et dans le livre, donc, il y a une meute de bactéries qui traversent le texte et qui sont appelées des agents méphitiques ou des miasmes. Et de même, un brouillard parcourt l'écriture. On peut jouer pas mal avec ce mot en anglais, c'est assez simple. Mist, c'est le brouillard, mais c'est aussi mist, c'est-à-dire ce que je rate, ce que je manque. Et on est en plein dans une proto-écriture queer où c'est le ratage qui permet de dire des choses. The queer art of failure, pour reprendre le titre d'Albert Stamm. Donc ça donne des phrases comme ça. I'm folded into her, ça c'est au début. I'm involved in the curves of her gray folds. Words rain on the molded juncture, which you might mistakenly call my head. Et là déjà on voit ce qui se passe. La tête disparaît, un peu comme dans l'écriture de Preciado, et elle est remplacée par alors une jonction moulée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est à la fois le classicisme du visage et de la sculpture et de la tête sculptée, mais moldé en anglais, ça veut aussi dire moisi, c'est-à-dire rangé, déconstruit, bouffé. Il n'y a plus rien. Il y a une colonie de bactéries ou de virus peut-être. C'est un texte proto-viral. Et puis, on a aussi ces petites phrases très belles où la du texte apparaît avec des jeux d'équivalence. On peut dire en anglais the nap of the paper surface. Le papier a une peau, a une surface, a un grain, a une fibre, et donc elle a un goût de champignon. Je vais vite. On a aussi des petites phrases dans le dernier chapitre comme celle-ci où on passe au minuscule. I entered the mist, I started iodine, avec un devenir chimique. Le jeu est remplacé par de l'iode, qui on pourrait creuser la formule de l'iode. Et je ne sais pas si j'ai encore une minute ou deux pour glisser deux petits bouts de texte qui, eux, viennent donc du texte de 84 et de ce manifeste féministe qui s'appelle « All Men Are Sisters », qui est un beau texte en prose poétique soufflée. Ce sont des versets, disons. « Woman is the host, man guest, guestess, but the host has been too amiable for too long. » Donc, la femme et l'autre, l'homme invité et eux, mais ça suffit. On en a marre de parler la langue des hommes, etc. Bon. Il faudrait que ça change. Et définition des femmes, « Most women do not look like themselves. Although many women do assume the form of woman, some are men, others gas and electricity, and still others are indistinguishable. » Et si on lit Deleuze à côté, on voit une espèce de devenir imperceptible ici, qui n'est pas du tout à prendre au sens de disparaître, mais au contraire d'augmenter sa surface de pénétration et de condensation et de percolation. Donc, alors, peut-être une conclusion, il me reste peut-être une petite minute. En me dépêchant, je me dépêche. Et j'arrive finalement à deux phrases, une qui est de Helen Keller, qui a dit en 1908, en parlant de sa sensibilité vibratile, « Every atom of my body is a vibroscope ». On retrouve cette phrase chez Keller, chez Higgins, dans le texte Helen Keller, « Every atom of my body yoicks a vibroscope », les verbes être, dans tout le chapitre en question, devant être remplacés par des inventions. Et donc, en traduisant, je me suis amusée à déloger le verbe être et à essayer de trouver des équivalents l'équivalent franco-animaux français. Et donc, Yorix, c'est un bruit d'accroche, un point d'accroche. On pourrait appeler ça une spike en reprenant le langage viral actuel dont on nous rebat les oreilles. Et une spike qui produit une forme de réplication ou d'invitation à la synthèse disjonctive. Et je vais terminer avec la projection du livre, de la couverture donc, de ce livre introuvable que j'ai pas en fait. C'est Madeleine qui m'a envoyé son texte sous forme de tapuscrit et donc j'ai pas travaillé sur le vrai, mais Lucie va nous en parler. Mais le titre, pour l'instant, j'ai d'une certaine manière, j'ai chickened out, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que j'ai parlé juste de ça, mais il y a un très long sous-titre et le sous-titre, vous voyez qu'il est plus ou moins obscur. On sent qu'il y a Wittgenstein pas loin avec des philosophiques investigations et puis il y a Greta Garbo. Et j'aurais peut-être dû parler en fait que de Greta Garbo, mais elle est là avec son nom éplé, atomisé, molécularisé en virus peut-être, en tout cas, et puis ce IT-16 qui termine l'ensemble. Il y a une espèce de pluie de lettres majuscules, ce nom de Greta Garbo qui déloge donc celui de Wittgenstein, goodbye Wittgenstein, merci Greta, et on entend ici, on voit, alors on pourrait dire ici « she is raining » sous forme de particules prêtes à entrer dans chaque corps, sous forme chimique et sous forme en tout cas gay peut-être, gay comme Greta Garbo. Bon, j'arrêterai là, j'arrête le partage et je me tais.
Merci beaucoup pour cette communication passionnante. Et Lucie, je vous laisse peut-être la parole tout de suite. Oui.
Thank you so much. And I am very grateful to be here. And I'll also attempt to move quickly. So I'm going to share my screen now. So the title of my talk is Visionary Cybernetics, and I'm going to start out in the late 1960s in New York City, which is just one way of entering Ginz's work. She, as Marie-Dominique shared with us, is a writer, artist, philosopher, and architect who not only challenged disciplinary boundaries but pushed disciplines, particularly those of poetry and architecture, to reconsider their own defining principles and characteristics. And I want to show a bit about how the hybridity of Ginz's work is connected to conceptualist leanings in experimental writing in the US. And for that reason, I'm going to show you a bit about her early work so you can get a sense of sort of foundations or where she's coming from, as we say. And so in this short talk, I'll introduce Ginz's early prose. And I was very struck in relation to Hélène Bessette's work with the notion of the roman poétique, because I think that is absolutely where we find ourselves with Ginz and with her early work. And the remarks that I give here are adapted from the introduction to the recently published The Saddest Thing Is That I Have Had to Use Words, a Madeleine Ginz reader, which is bringing Word Rain, for example, back into print for those who are interested in that. So let's begin in 1969, which was an eventful year, to say the least, in the United States. In the spring, Kurt Vonnegut's novel of military industrial historical trauma, Slaughterhouse 5, appeared, and we also had The Godfather and I Know Why the Caged Bird Sings. So it was a momentous year for popular literature. And that summer, the Stonewall Uprising took place in Manhattan. Two Americans walked on the moon. Charles Manson's family committed their notorious killings. And the murder of Meredith Hunter at the Rolling Stones' Altamont Free Concert signaled the coming breakdown of hippie culture. The West Coast of the US was the source of globally disseminated psychedelia and cowboy narratives. And meanwhile, back east, Valerie Solanas shot Andy Warhol just 1 year earlier, and the mega valuation of contemporary artworks we are accustomed to today was well underway. But let's imagine in the present tense, 1969 in Manhattan, the war in Vietnam continues. A younger generation of American artists has begun to bypass the standard practices of the Manhattan Gallery system in favor of discursive modes of circulation. As Joseph Kossuth argued in his essay, Art After Philosophy, art has a privileged relationship to language here. In Kossuth's view, any physical thing can be considered an artwork. Thus, the work of art inheres in the language-based contention that a given thing is art. Art is and is only a kind of proposition presented within the context of art as a comment on art. But we need not see the trends grouped under conceptualism as purely philosophical in nature. There are a broad swathe of interdisciplinary practitioners at work. Vito Acconci, a poet, artist, and later architect, and the poet Bernadette Mayer have convened a series of events they are calling street works. See here my slide. The results and documentation of which they will publish as a supplement to their magazine of experimental writing 0 to 9, a project they've been pursuing jointly for the past 2 years. Among the artists bringing language off the page and into the thoroughfares of Manhattan in the collaborative street works happenings is the poet novelist Madeline Ginz. She is in her late 20s, the wife of an up-and-coming mentee of Marcel Duchamp, who, along with his mentor, has recently exhibited work in the Dwan Gallery's 1967 show, Language to be Looked at and or Things to be Read. Fantastic title. This artist, who now goes by a single moniker, Arakawa, also joins, bringing with him a large plastic sheet depicting the floor plan of a house. Again, my slide. Imagery that sometimes appears in his paintings. The floor plan is to be spread out on the sidewalk so that passersby must cross terms such as bedroom and bath to get wherever they are going. It's witty, sweet, and a little puzzling. Ginz's contribution feels more ambitious, utopian even, if equally odd. It takes the form of a group novel. She's handing out facsimiles of a typed questionnaire that instructs the reader, "Everything I receive will become part of a novel. My publisher has expressed interest in this project." She claims that all completed forms mailed back to her at her P.O. box at the Canal Street Post Office will be used in the composition of her novel and that all respondents will be credited. Quote, "If you wish to add pages, anything, do." She invites the anonymous addressee. She's writing to anyone and everyone and seems to mean it. The questionnaire itself shows blanks interrupting sentence fragments. I am blank old and have blank more years to live, or I am composed of blank and blank. The back of the form includes an empty speech bubble, presumably to be used for interjections, complaints, or requests. Many descriptions of poetry's role in this particular moment of art making have tended to focus on the static materiality of language to the detriment of descriptions of interactivity. As the critic Liz Kotz has written, this is entailed a reduction of language to a kind of object. Accounts of language-based conceptualism emphasizing what the artist Roy Ascott in his 1966 essay, Behaviorist Art and the Cybernetic Vision, termed the field of behavior are more rare. Street Works, a project taking place on the streets of New York and requiring the behavior and input and awareness of friends, colleagues, and strangers, belies the notion that language was all object for these poets and artists. Here, language was a sight. It was an enticement to act, and it was action. Ginz's group novel called for action too. Unlike the group novels created by artists Douglas Hubler and Andy Warhol, Ginz's project was not a site for the confession of secrets and gossip. Like Vito Acconci's poetry, which played with the instructive nature of writing and marks of punctuation to depict the possibility of writing, or Dan Graham's schemas and lists of materials for the creation of a poem, Ginz's early writing in Street Works and in her first collection, Word Rain, was self-reflexive, but also did something more, which we'll need to look at Word Rain to see. Ginz's early writing directly engaged the cybernetic qualities of the conceptualist impulse by deploying sentences and prose fragments as means for holistic control of discourse, the human body and social relations, confusing the agency of the writer with that of the reader. And this occurred in a manner that reflected Ginz's literary and transdisciplinary concerns, resulting in what might be termed a visionary cybernetics. For Ginz's interest in systems and communication often went beyond description of what is merely possible into intensely imaginative and speculative and, of course, hybrid realms. So Ginz's group novel shows Ginz in the midst of imagining literature as a radically collaborative undertaking. And of course, here we want to cite Roland Barthes' famous essay on the death of the author, which was published first in English just 2 years earlier in the rarefied Art World magazine Aspen in its minimalism themed issue edited by the artist Brian O'Doherty. Bart calls for literary writing to be understood as text, as a tissue of citations, as we recall, referring back to an unknowable number of contexts and reference, rather than as a monographic masterpiece, the meaning of which is exhaustively foreseen by a godlike author. And in her group novel, this questionnaire, which remains in this sort of proto form as a questionnaire, Ginz inhabits the so-called author function without attempting to act as the sole originator of the novel's meaning. This is profoundly synthetic and polyvocal literary production, presaging and perhaps even predicting contemporary platform-enabled collaborative writing online. And as she writes in Word Rain, her experimental novel to be published in the fall of 1969, of the work of writing on behalf of a given reader, quote, "I symbolize your existence for you as I read your life." So we've already heard about the full title of this extraordinary work. It was brought forth in an elegant, now extremely rare hardcover edition by Grossman Publishers, an imprint run by the daring Richard Grossman, who in 1965 had published Ralph Nader's best-selling Unsafe at Any Speed, The Designed and Dangers of the American Automobile. Grossman had apparently used funds from sales of books like Nader's, which not incidentally resulted in the passage of seatbelt laws in 49 states, as well as the creation of the Department of Transportation, to make possible the publication of challenging material like Ginz's novel. It's an unusual and lucky thing that he did. Word Rain is arguably Ginz's most brilliant endeavor and among the most significant works of experimental prose in English in the second half of the 20th century. So Word Rain is a carefully calibrated artist's book, as well as a comment on the novel form. It activates multiple registers of the reading experience, asking the reader to attend to the book's design and physical form, to the writing itself, and to the interplay between the text and various images included. The games begin at the dust jacket, which shows the photograph of a hardcover book ostensibly identical to the Word Rain the reader holds in their hands, save that this Word Rain's cover is blank. This truncated mise-en-abîme suggests that Word Rain contains an image of itself with a difference, in that the reader must supply the subsequent image that this image of the book, this imaginary book, will contain. Without the reader's participation, Word Rain's meaning is incomplete. This indeterminacy is far from accidental. It constitutes a strategic displacement of the reader from the position of guileless identification, sometimes associated with the first person address of lyric poetry or the protagonist of the Bildungsroman. Word Rain compels the reader to acknowledge the mediating objects that are printed words, the page, and the book, as well as the reader's own role in the fabrication of fictional events. Throughout Word Rain, one finds reference to both the act of reading and the act of writing, but the speaker of the sentences is not quite the writer, nor is she quite the reader. She is someone who exists in relation to words and who is aware of the possibility of reading as well as the possibility of writing. She is aware of the possibility of sensing writing, whether looking at it, touching it, dwelling in it, even sometimes smelling or tasting it. She writes about these possibilities as well as their possible results. Read this with me, read that with me, read with me, read objects, tables, toes, toads, tails, tin, trains, type, tears, throat. Read, write, this is only, this is still life, only I write and read. If you've misplaced me on your own, bring me up again from off this page. I give you this book for a present. It comes with a room, light, a country, sky, and weather. I will arrange for you to be made aware of these in detail. You may look at everything. You will see only what I see. Look at this sentence. Ginz's narration in Word Rain places unusual emphasis on the experience of being simultaneously a producer and receiver of writing. experience, tactile, olfactory, temporal, visual, etc., is folded into Ginz's sentences, and the sentences in turn produce such experience, which must be re-described in a sort of feedback loop. Word Rain might thus be a memoir of the present, of the very instant of writing, of a sort of homeostatic temporality, occasionally difficult to differentiate from the biochemical mix that includes the body of the reader slash writer, as well as the interface of the page. There is a thickening here, a layering of sensitivities of, and sensors of data and processes over physical and textual space. In a radical reimagining of the traditional hierarchy of figure and ground, Ginz makes the theme of her writing, as well as your, the reader's reading. She substitutes process itself for the literary text's traditional mimetic ends. Word Rain's writing becomes schematic, envisions its own sentences and paragraphs. Sometimes it becomes quotations derived from other books. It makes everything, even that which it records and repeats. Nothing can be taken for granted, not even the presence of the reader, not the time of reading. Even the time of reading has to be made. So I just want to say quickly here that there are very few precedents in the American context for this sort of work, which is part of the reason that it's so remarkable. And we might link Ginz to figures such as John Cage or Jackson Maclow, to Yoko Ono, and more recently to poets such as Lynn Hagenian, Bernadette Mayer, as mentioned, and Leslie Scalapino, or Hannah Wiener, who's a cybernetically inclined writer, if ever there was one. However, these comparisons remain just that, comparisons. And I also include in my introduction to the anthology some discussion of Adrienne Piper's early work, which might also be apropos here, particularly her thinking around Kant, who can exist as a kind of Wittgenstein-like figure in the context of Ginz's work. And I want to remind us of the cybernetic quality of this work, and just again foreground a definition by the scholar Orrit Halpern, who writes, in cybernetic understandings, descriptions of processes always become sites for further production of new techniques of production rather than static descriptions. Materiality, action, and concept are inseparable. And Ginz is engaged in imagining a message slash word that behaves like a platform, receiver, or trampoline. And these are all her terms, a message that is in fact a medium, a conduit unstilled. So I'm going to stop there. And again, I want to thank you for letting me speak today and share this material related to Ginz.
Thank you. Thank you so much for this paper. Alors Claire, j'ai vu que dans le Framapad, tu avais une question que tu voulais poser. Est-ce que tu veux prendre la parole pour le faire?
Micro Claire, ton micro est...
Je l'avais fait deux fois de suite, je disais juste que j'étais sur le YouTube et donc, pardon, c'est pour lequel je l'avais tapé. Mais je voulais dire d'abord un très grand merci pour toutes ces trois paroles qu'on a eues. Thank you so much for these three speeches that we had. Et donc, je voulais essayer de faire un pont peut-être entre le premier et aussi le deuxième. Donc, je disais juste qu'il me semble qu'il y a une écriture moléculaire ou peut-être proto-virale. J'ai dit que j'adore ce terme qu'a utilisé Marie-Victorine Garnier, qu'on peut peut-être maintenant ajouter cybernétique. Donc, ça, c'est à penser. Aussi chez Hélène Bessette. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une ligne d'écriture expérimentale qui comprend Bessette et aussi Madeleine Ginz? Et je dis, bon, et il y a évidemment une question transatlantique là-dedans aussi. Et peut-être c'est trop vaste, mais et un petit footnote à ça, c'était de juste penser ensemble comment est-ce qu'on peut lier cette moléculaire dont on a introduit chez Marie-Dominique Garnier et cette cybernétique chez Lucy Ives. J'ai hâte juste d'entendre plus. Merci beaucoup.
Qui est-ce qui commence? Maybe you want to start, Lucy? Ma réponse tiendrait en un mot, je dirais juste virus. Bon, il y a des virus cybernétiques ou informatiques. Alors, cybernétique, c'est un vieux mot qui maintenant est remplacé par informatique. Et il a été délogé, à mon avis, pour des raisons. Enfin, les gens ont commencé à réfléchir à ce mot de cybernétique et il est apparenté au pouvoir, en fait, parce que Kuber, c'est le même mot que governing, Kuber. Kuber, c'est le nom de ce qui sert à gouverner un bateau, le gouvernail en grec. Et du coup, c'est peut-être pour cette raison-là que cybernétique, maintenant, ne s'appelle plus cybernétique. Mais ça peut marcher très, très bien. Il y a aussi une beauté de ce mot cybernétique. Alors, je dirais qu'il y a des virus dans les ordinateurs, et donc les virus, pour moi, sont des choses qui traversent aussi les membranes. Enfin bon, c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde, ça traverse pas mal de choses. Donc, il s'agit d'essayer de pratiquer la traversée des membranes et la traversée des peaux, sachant que, en tant que vivant maintenant en mode cybernétique, on a du mal à opérer cette traversée. Je me souviens d'un texte de Preciado assez récent où il rêve que les écrans se parlent entre eux et deviennent des peaux. Quand on arrivera à faire ça avec Zoom, ça sera pas mal. On n'en est pas encore là.
Yeah, just to say, I think that there isn't necessarily a sort of tension between the terms molecular or this sort of biochemical idea and the cybernetic idea. You know, the cybernetic theory is really a metaphor for thinking about process and how that which is plural kind of governs itself and collaborates, and a way of thinking about the organism as already plural. And I included in the chat a link to, in a sort of strange hybrid gesture, an article that recently appeared in The New Yorker, which is about cellular regeneration and how you can use electricity possibly to teach cells to make shapes. And that's the problem with cellular regeneration right now from the point of view of the human body, that we don't know how to form organs. We can make a sheet of cells, a flat sheet, but we don't know how to make like a face or a heart or something like that. And so this might just be something to look at in a kind of like exploratory way. But yeah, and I think something else that I just want to talk about a little bit in relation to hybridity is this idea of resistance also in relation to the notion of the group or the coterie, which we saw in relation to Bissett's writing. And I think that is something, you know, as Marie-Dominique was speaking, that I thought about Ginz, and is a question that I kind of want to pose back to the conference again, which is sort of like, how does one begin writing in this fashion, in which we're even now, we look at the title of Word Rain and we say, what is this? You know, why are these letters being listed? What does it mean that the title ends with "it says"? And I think that's very it's very enticing, but it's also very exciting in relation to this question of where does it begin and what is resistance, what is hybridity, what is something that is truly you know, other than these pre-existing categories. But this is sort of like to move the question into another space, so I'll stop myself now.
Merci beaucoup pour ces réponses qui permettent aussi de créer de nouveaux échos et de nouveaux prolongements. Il y a eu une autre question aussi qui fait justement écho à une question que je voulais vous poser. Donc, je vais la lire et puis je vais poser la mienne en même temps, comme ça permettra de traiter les deux en même temps. Tous ces détails de polysémie dans la poésie de Ginz sont passionnants. Ils font se demander du coup comment traduire, comment comble-t-on ce manque dans le passage de la langue à l'autre. Et moi, justement, je voulais parler de la notion de rattache que vous avez évoquée, Marie-Dominique Garnier, et qui crée aussi un miroir intéressant avec l'insuccès imposé à Hélène Bessette, qui a été évoqué dans la première communication, alors que là, c'est quelque chose d'empouvoirant. Et je me demandais justement comment conserver ce rattache dans la traduction, dans l'édition. Comment travailler à cette préservation-là?
C'est exactement la bonne formule, c'est conserver du ratage, c'est exactement ça, ça n'arrête pas de rater. Bon, je suis partie en tirailleuse, on peut dire, sans éditeur, sans avoir contacté un éditeur au préalable, une éditrice qui est complètement aberrant, et je suis tombée dans ce texte, je n'ai pas pu le lâcher. En fait, c'est lui qui m'a... Bon. Mais après, bon, j'ai quand même réussi à publier avec de l'argent universitaire. En fait, c'est un financement de Paris 8 qui a permis de convaincre Herman, l'éditeur, qui en fait connaissait Arakawa. Et en fait, l'éditeur français avait une grande admiration pour Arakawa, l'homme, l'architecte, mais Gins, bon, Gins a souvent dû payer le prix de son prénom, Madeleine. Beaucoup de gens pensaient que c'était Mad Gins. Madeleine, elle est un peu crazy aussi. Et donc, je parle avec des collègues dont je tairai le nom, mais les collègues français qui enseignent aux États-Unis et qui pensent que Madeleine a des problèmes de santé mentale. Je me demande si ce n'est pas la même chose qui est arrivée à Hélène Bessette. Je pense qu'on n'a pas dû lui faire de cadeau à Hélène Bessette. Pour répondre à la question de la traduction, j'ai passé beaucoup de temps. Je partais l'été avec ce livre et puis je revenais l'été d'après, je refaisais une autre traduction. Donc, ça s'est accumulé sur mon ordinateur et puis finalement, au moment où j'ai eu de l'argent pour publier, c'est parti chez l'éditeur et puis c'est une version N qui est partie. Je ne peux pas dire que c'est la meilleure, je ne sais pas quelle est la meilleure, mais bon, c'est une des versions, c'est tout. Et, par exemple, pour traduire Sky of an Eye, au moment où j'étais partie sur Jeu de ciel, Bleu de ciel, puis finalement je suis revenue près du texte Moi ciel, en passant par Moisson de Moi ciel, et finalement j'ai traduit en essayant de suivre les conseils de Deleuze et Guattari, il faut écrire et il faut traduire par soustraction, en enlevant des choses. Donc voilà, j'ai essayé d'enlever des choses.
Merci beaucoup.
De rien.
Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que là, le temps file et c'est bientôt l'heure de la table ronde. Je regarde dans le Frama, mais je ne crois pas. En tout cas, apparemment, il y a eu plein de retours très enthousiastes sur YouTube. Oui, vas-y, Solène.
Pardon, justement, c'est une petite question qui m'est venue à vous entendre. Lorsque vous avez parlé de Sky of an Eye, justement, vous avez mentionné, vous avez dit que ça pourrait être une retraduction de Poétesse.
Ouais.
Et ça m'a beaucoup interpellée. Et du coup, en fait, si vous avez un peu plus de temps pour développer cette idée-là, je sais qu'on court un peu après les minutes en ce moment, enfin toute la journée, mais j'aimerais bien écouter un peu ce que vous...
Enfin, je voudrais surtout pas que ça soit pris pour quelque chose de théologico, parce que le ciel, il faut se méfier aussi, il y a du théologique derrière, et si on passe son temps à regarder en l'air, on rate des choses aussi. Je me souviens ce matin avec les enseignants, j'avais cours ce matin, désolée, j'ai pas pu écouter ce qui s'est dit ce matin, mais je relisais un texte avec les étudiants de Haraway qui critique Deleuze, qui les trouve trop théoriques, et qui dit moi ce qui m'intéresse c'est la boue. Et du coup, c'est vrai que si on s'intéresse à la boue et à l'écoféminisme et à la terre, le ciel, c'est pas trop le propos. Mais justement, ce qui intéresse Madeleine Gins, c'est pas tellement le ciel, je pense qu'elle s'en fiche, c'est la sonorité, le son, Sky of an Eye, c'est de l'écriture musicale, plus ou moins désémiotisée. Sky of an Eye, ça se marche. On peut buter aussi sur le Sky of an Eye, c'est une espèce de marche en tâtonnant dans la langue. On ne comprend absolument rien. On se dit, bon, c'est quoi Sky of an Eye? Ah oui, d'accord, donc elle est aveugle. Oui, mais alors le ciel, elle ne voit rien. Si, si, elle voit quand même parce que c'est elle sans limite. Donc voilà. Et finalement, Sky of an Eye, quand j'ai entendu tout à l'heure, j'ai oublié qui a parlé des poétesses en ligne, enfin la poésie en ligne, enfin sur le web, c'est peut-être aussi ça, c'est Internet in the Sky, c'est Eye of a Skype, ou Skype of an Eye, ou Zoom of an Eye, enfin des choses comme ça. Quoi. Bon, Zoom of an Eye, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Je ne vais pas être publiée là. Mais bon.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci surtout à vous.
Merci pour ces deux interventions et puis pour ce temps d'échange aussi. Et maintenant, on va prendre 10 minutes de pause avant de passer à la table ronde qui terminera les échanges de la journée avant la soirée sur YouTube. Merci beaucoup.